Tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Mais qui sont ceux qui nous gouvernent? Il y a bien sûr les dirigeants politiques, ce sont peut-être les plus visibles, ils sont au cœur de notre système démocratique et leur influence ou leur perte d'influence est relativement visible. Mais il y a aussi tous ceux qui ont de l'influence via les milieux économiques, via les entreprises ou grâce à leurs moyens financiers. Parfois, souvent, ces milieux financiers et politiques se mélangent, s'entrecroisent, se fréquentent assidûment, qui plus est dans un petit pays comme la Suisse. C'était du moins le cas durant des décennies, ce sera peut-être plus tout à fait la même chose dans quelques années. Et aujourd'hui déjà, les élites qui nous gouvernent ne sont plus les mêmes que celles des années 1980 ou 1990. Alors quels sont les changements qui se sont opérés durant le XXe siècle et quels sont les changements en cours au sein de l'élite, ou faut-il dire des élites suisses qui nous gouvernent et dont les décisions influencent notre société? C'est le sujet qu'on va aborder avec vous. André Mack, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin dans Tribu. André Mack, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'études politiques historiques et international de l'Université de Lausanne. Vous êtes le co-auteur d'un article sur la transformation des élites en Suisse. C'est un article qui sera disponible dans quelques jours sur une toute nouvelle plateforme internet. C'est www.socialchangeswitzerland en anglais. Un article co-signé, on va les citer, par Félix Bühlmann, Marion Betschen, Thomas David et Stéphanie Ginalski. Et puis cet article s'inscrit aussi dans la création de l'Observatoire des élites en Suisse. On va encore citer cet ouvrage dont vous êtes le co-auteur avec Thomas David, de nouveau, Martin Luppold et Gerhard Schneider, de la forteresse des Alpes à la valeur actionnariale, histoire de la gouvernance d'entreprises suisses entre 1880 et 2010. Je crois qu'on a cité tout le monde, André Mack.
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal. Alors on va parler des élites, on a bien compris, qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par élite, élite politique, élite économique? Qu'est-ce que ça veut dire élite?
Alors, c'est important de préciser un peu ce point parce que la notion d'élite est souvent un peu connotée positivement ou négativement, c'est-à-dire que on peut considérer que les élites sont des personnalités dotées de qualités au-dessus de la moyenne, exceptionnelles. Donc ça c'est pour l'aspect positif, alors que l'aspect plutôt négatif c'est de considérer qu'un petit groupe d'acteurs décide de manière peu démocratique entre soi sans consulter le peuple. Alors ça, c'est ce qui fait que la notion même d'élite est assez ambiguë et pour nos recherches, on a vraiment adopté une définition un peu minimale pour sortir un peu de ces connotations en prenant en considération les personnes qui occupent certaines positions de pouvoir dans la société, dans les sphères économiques, politiques, administratives. Donc c'est vraiment une définition selon la position occupée par ces personnes, position qui leur donne des pouvoirs formels de décision sur la société. Donc c'est important de préciser ça parce que dans le sens commun, un peu cette notion d'élite est très 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 connotée. Donc c'est pour ça que dans notre recherche, on a vraiment cette définition de la position occupée.
Donc des gens qui ont le pouvoir de modifier la société d'une manière ou d'une autre, que ce soit politique, économique. On va le voir. D'où vient cet intérêt pour vous? Parce que c'est pas la première fois que vous intervenez à la radio sur les élites. Comment vous vous êtes intéressé à cette thématique?
Tout à fait. Alors, ça fait déjà une petite dizaine d'années que je travaille un peu sur ces questions. À la base, en faisant mes recherches en sciences politiques, j'ai travaillé plutôt sur les processus de décision politique au niveau suisse. Et puis, on s'est rendu compte aussi avec mon collègue Thomas David que finalement, savoir un peu qui sont ces personnes, ces élites économiques, politiques, il y avait relativement peu de recherches. C'était un thème assez à la mode en sciences sociales dans les années 60-70, alors que dans la période récente, relativement peu d'études étaient faites sur les élites. Et c'est suite un peu à ce constat que déjà il y a une petite dizaine d'années, on a lancé un premier projet de recherche, d'abord plutôt sur les élites économiques, ensuite sur les élites politiques, économiques et administratives. Maintenant, on est en train de mener, avec Félix Bühlmann et Thomas David, une recherche plus particulièrement sur les élites académiques, qui n'est pas encore l'objet de l'article, qui n'est pas traité dans l'article que vous avez cité en introduction, mais c'est un peu la thématique qui nous préoccupe actuellement.
Alors, et puis pour un peu observer ces élites, il faut un peu voir, il faut voir les gens, parce qu'on parle des élites, il y a des gens derrière, évidemment, il y a des noms. Et vous en avez pas mal de noms. Vous en avez 20 000 entre, enfin, ça couvre à peu près tout le 20e siècle et le début du 21e. Comment est-ce qu'on réunit 20 000 noms? C'est un immense travail. C'est du data, de la data recherche.
Voilà, il y a un peu de ça. C'est souvent assez chronophage, de récolte d'informations. Mais alors, de nouveau, un peu selon la définition qu'on avait des élites, de la position occupée. Donc, comment on a procédé, c'est de répertorier durant le XXe siècle, à partant de 1910, avec à peu près 20 ans d'intervalle, les élites économiques, politiques, administratives, donc occupant des positions de pouvoir dans ces trois sphères, sur six dates, de 1910 jusqu'à 2010, en les répertoriant dans une base de données. Et donc, ça fait maintenant un peu plus de 20 000 personnes qu'on a dans cette base de données, ce qui est énorme. Toutes ces personnes ne sont pas documentées de manière détaillée, mais elles font partie de cette base de données. Et par rapport à ça, vous mentionnez donc la création de notre observatoire des élites suisses qui vient d'être créé, dont le site sera ouvert ces jours. L'idée un peu de cet observatoire était justement aussi de mettre à disposition une partie, en tout cas, de cette base de données, donc qui est consultable sur Internet.
Oui, à www.unil.ch/obelis. O-B-E-L-I-S. Ça va s'ouvrir. Essayez, en tout cas, j'ai essayé ce matin, ça marchait.
C'est déjà accessible. Mm-hmm. L'ouverture formelle, je crois, était prévue pour ces jours. Quoi. Voilà. Mais donc, ouais, l'acronyme, c'est pour l'Observatoire des élites suisses.
Voilà, et puis on peut taper un nom et puis voir, avoir des informations sur une de ces 20 000 personnes. On va aller se plonger un petit peu dans les résultats, hein, parce que vous avez trouvé toutes sortes de choses grâce à cette base de données très importante sur les élites, chronologiquement aussi. Alors, pendant longtemps, on a estimé que le succès helvétique, c'est ce que vous dites, était dû à en fait une étroite imbrication des sphères économiques, politiques et administratives. Petit pays, tout le monde se connaît, on se partage des informations, c'est comme ça que ça fonctionnait.
Voilà, alors ça, c'était une des caractéristiques assez fortes des élites suisses pendant une bonne partie du XXe siècle. D'une part en raison aussi de la taille du pays, mais aussi en Suisse, ce qui est très fort, le système de milices qui prévaut en grande partie, moins aujourd'hui, mais qui prévalait en tout cas pendant la majeure partie du XXe siècle, le principe de milice, le fait qu'on occupe une position de parlementaire fédéral à côté de son occupation professionnelle principale. Aussi à l'armée, le principe de l'armée de milice, le fait d'être officier à l'armée de manière non professionnelle. Et donc, cette caractéristique, la taille du pays, les caractéristiques de ce système de milice font que beaucoup de personnes occupaient des positions de pouvoir multiples, ce qu'on parle souvent de multipositionnalité, à la fois parlementaire, officier à l'armée et membre de conseil d'administration de grandes entreprises.
En fin de compte, ça fait pas mal de monde, mais c'est quand même un petit groupe, un petit pourcentage de la population avec un gros pouvoir.
Voilà, tout à fait. Alors c'était très caractéristique des élites, en tout cas jusqu'à ces 20 dernières années.
Ouais. On est aussi loin, parce que si on reste un petit peu dans cette évolution du XXe siècle, on est loin d'un système très démocratique, basé sur les compétences, on peut aller à l'école et puis gravir les échelons. On retrouve toujours un peu la même caractéristique, c'était des hommes issus de familles aisées, qui avaient fait des études.
Voilà, alors c'est dans notre système démocratique suisse, avec la démocratie directe, on insiste un peu sur le fait que n'importe quel citoyen pourrait être représenté au Parlement, mais de fait, en tout cas en ce qui concerne le Parlement, mais c'est aussi valable pour les élites économiques et peut-être maintenant encore plus, les caractéristiques de ces personnes qui occupent des positions de pouvoir durant le XXe siècle, c'est pas n'importe qui. Et là, en effet, on peut décliner un peu certaines caractéristiques sociales de ces personnes. Alors vous en avez mentionné quelques-unes. Un aspect, c'est le caractère très masculin des élites suisses. C'est vraiment très tardif, comparativement aussi à d'autres pays européens, que les femmes accèdent, et encore dans une proportion encore très moindre, à des positions de pouvoir. C'est valable à la fois pour les élites politiques, mais aussi dans la sphère économique et aussi dans la haute administration.
Oui, on le voit. D'ailleurs, on a fait lundi, on avait, c'est un peu un hasard, on recevait Maria del Rio Caral, générale sur les femmes cadres aujourd'hui. C'était une étude subjective sur comment elles vivent aujourd'hui. Mais si on regarde vos chiffres, bon, alors évidemment, avant 1970, en fin de compte, il n'y a pratiquement pas de femmes puisqu'elles n'avaient tout simplement pas le droit de vote en Suisse, on le rappelle. Et puis, elles arrivent petit à petit, mais c'est assez faible, en fin de compte. Elles sont aujourd'hui toujours, là, si j'ai votre tableau sous les yeux, proportion des femmes parmi les élites suisses, en 2010, la moyenne entre l'économie, la politique et l'administration, c'est 17,5%. Donc, augmentation, mais sur un siècle, ça ne fait pas beaucoup.
Non, tout à fait. Non, ça reste très, très faible. Alors, c'est vrai que dans la sphère politique, il y avait des barrières formelles d'accès. Jusqu'en 71, les femmes ne pouvaient pas être élues au Parlement. Et donc, au niveau politique, elles étaient absentes.
C'est là qu'elles progressent le plus. Elles viennent presque à 30%. Hein.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que maintenant, si on compare au niveau européen, même si ça reste plutôt bas, la Suisse s'en sort pas trop mal. Il y a eu une progression assez nette. En revanche, sur le plan économique ou de la haute administration, ça reste très, 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 très faible. Et ça, disons, si on compare à d'autres pays, c'est vrai que cette faible proportion de femmes, il a aussi quelques explications. Une des éléments d'explication pourquoi la Suisse se caractérise par cette faible présence des femmes, c'est dû aussi à certaines instances de socialisation de ces élites, par exemple les sociétés d'étudiants ou l'armée, voire le Rotary Club, étaient souvent des instances fermées aux femmes, alors qu'elles servaient aussi à l'interconnaissance entre ces élites, mais essentiellement
Le réseautage masculin fonctionnait à plein avec ces différents types de réseautage dont vous parlez.
Voilà, et ça, c'est sans doute une des explications de cette faible présence des femmes, c'est ces instances exclusivement féminines qui limitaient aussi les connexions des femmes avec les élites en formation ou déjà en place.
Ouais, autre évolution intéressante que l'on retrouve dans vos chiffres, c'est que les membres des élites qui ne sont pas universitaires, alors au tout début du siècle, ils sont quand même 30%. Aujourd'hui, ils sont plus que 20%. L'évolution n'est pas extraordinaire, mais enfin, on constate que on a de plus en plus d'universitaires. Ceux qui n'ont pas fait des études académiques sont petit à petit quand même mis sur le côté.
Ouais, alors c'est pas très très original comme résultat, mais en effet, la proportion d'universitaires augmente et c'est plus rare de ne pas avoir de formation académique pour occuper des positions de pouvoir dans la sphère économique, politique ou administrative. Ce qui était frappant, c'est surtout les hauts fonctionnaires qui se distinguaient par une très forte proportion de formation académique. C'était un peu moins le cas sur les étés économiques et politiques. Et maintenant, c'est vrai que par exemple, parmi les parlementaires, la grande majorité sont titulaires d'un diplôme universitaire.
Avec des partis qui se distinguent, on a vu l'UDC arriver avec un certain nombre d'élus qui n'étaient pas universitaires. Et au contraire, de l'autre côté de l'échiquier politique, les socialistes, alors eux, pratiquement tout le monde, il reste quelques Mohicans, peut-être syndicalistes, qui n'ont pas fait d'études universitaires, mais
tout à fait, c'est un point qu'on a un peu relevé aussi de nos recherches sur le Parlement. Les socialistes se distinguaient jusqu'aux années 80-90 par la plus faible proportion d'universitaires. Et ça a vraiment changé au cours des 20-30 dernières années, où actuellement les socialistes au Parlement se distinguent par la plus forte proportion d'universitaires, alors que l'UDC, ça diminue. Et c'est en partie lié un peu à la nouvelle UDC qui a émergé à partir des années 90. Et là, il y a une proportion d'universitaires plus faible que la moyenne.
André Mac, nous parlons de ceux qui nous dirigent, nos élites. Qui sont-ils? Quel est leur fonctionnement? On va vous retrouver juste après ça.
A playground with no kids on it, in the middle of Berlin. After another drunken night, I sit on the bench and I begin to wonder why I'm half asleep, why my head hurts so bad. I wonder if I'm just a creep, trying not to be mad. It's like we'd ever. So exciting. In the middle part I doubt, and in the end I'm disappointed. It's like with everything I do, the beginning so exciting, but then the middle part I doubt, and in the end I'm disappointed. cause it's turning to obsession. And baby, what I hate the most is that you're my first addiction. It's like every time I blink, I'm shocked and amazed. But when I start to drink, it's only dreams that I chase. It's like with everything I do, the beginning's so exciting, but then the middle part I doubt, and in the end I'm disappointed. It's like with everything I do, the beginning's so exciting, but then the middle part I doubt, and in the end I'm disappointed. Cause I'm sharing all, I'm sharing. With everything I do, the beginning's so exciting. In the middle part, I doubt. In the end, I'm disappointed.
Everything we do, Bastien Baker. Nous sommes avec vous, André Mack. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'études politiques, historiques et internationales de l'Université de Lausanne. Ce matin dans Tribu, nous parlons des élites suisses, qui est notre sujet, et dont vous êtes un spécialiste. Vous l'avez dit, vous travaillez sur cette spécialité depuis pas mal d'années. Les imbrications. On parlait des élites tout à l'heure. Les imbrications entre les gens, on les a bien compris. Les réseautages en petits pays, on réseaute beaucoup. Imbrications entre les entreprises aussi. Il y a deux tableaux dans vos recherches sont intéressants. En 1957, les entreprises ont des, en quelque part, ils ont, tout le monde est dans les conseils d'administration de tout le monde. On se connaît, on se retrouve partout.
Tout à fait. Alors, grâce à cette base de données, on a pu un peu documenter tous les membres des conseils d'administration à ces différentes dates au cours du XXe siècle. Et puis, on voit très bien un peu la densité, ce qu'on appelle des interrelations entre les conseils d'administration. Nous, on avait un échantillon de 110 plus grandes entreprises et on voit très bien comment il y a des acteurs qui participent qui sont administrateurs de différentes sociétés. Et ça crée donc des liens vraiment assez forts entre les grandes entreprises suisses. Et ce qu'on a pu documenter, c'est de voir l'importance de ces liens, la densité de ces liens durant la majeure partie du XXe siècle. Et donc ça montre que les élites économiques en Suisse ont été, étaient surtout, ça a changé pour la période récente, fortement intégrées et interconnectées. Mmh. Et ça se voit à travers les conseils d'administration des grandes sociétés, mais aussi à travers les importantes associations économiques, patronales, comme Économie Suisse, avant le Forort, la Science Suisse des banquiers, tout ça, où on retrouvait ces élites. Et donc, on avait en Suisse des élites fortement coordonnées durant la majeure partie du XXe siècle.
Et un demi-siècle plus tard, 2010, même tableau, grosso modo, quelques entreprises ont disparu, comme la SBS, mais disons que, voilà, on voit que les contacts sont presque inexistants. Ils existent encore, mais on ne se partage plus comme ça les membres des conseils d'administration. Gros changement qui débute, en fin de compte, dans les années 80. 1980, on commence à avoir un petit peu de changement dans ces réseaux économiques.
Ouais. Je dirais plutôt dans les années 90. Vu qu'on a un intervalle entre 80, 90 et 2000 dans notre base de données, on voit que c'est quand même le changement intervient plutôt dans la deuxième moitié des années 90. Où là, en effet, alors que ces interrelations étaient très très fortes, elles déclinent fortement à partir de la fin du XXe siècle. Et ça, c'est très impressionnant de voir cette diminution.
Comment ça s'explique ?
Ouais, alors. Historiquement, il y avait par exemple très fort lien entre banques et grandes entreprises industrielles. Avec l'internationalisation de l'économie, aussi la financiarisation, le fait que la sphère financière devient de plus en plus importante pour l'évaluation et le financement des entreprises, cette question des interconnexions entre conseils d'administration sont de plus en plus mal vues et on assiste aussi à une professionnalisation de ces conseils d'administration où on a de moins en moins de politiciens dans les grandes entreprises, en tout cas, qui sont sont de plus en plus internationalisés. Et donc, les politiciens dans les conseils d'administration, en tout cas des grandes sociétés, ça diminue très nettement. Et les liens aussi, comme ça, diminuent. Et donc, on a particulièrement entre banques, grandes banques et entreprises non financières, une diminution très forte de ces liens.
Et les entreprises ont plus recours au crédit dans le fond traditionnel, on va dire, ils se financent aussi sur les marchés boursiers. On a moins besoin d'aller au conseil d'administration de la banque cantonale ou de l'UBS.
Tout à fait. Alors, pour les grandes sociétés qui sont souvent cotées en bourse en Suisse, mais des fois aussi à l'étranger, le recours au crédit bancaire est devenu moins important, alors que l'évaluation boursière des sociétés est plus importante. Ça, c'est un des aspects qu'on documente dans notre livre sur l'histoire de la gouvernance d'entreprise. On voit que ces changements du contexte économique se répercutent aussi sur la manière dont les élites nationales sont interconnectées. Et là, on le voit très très bien dans nos analyses avec ces figures qu'on peut difficilement présenter à la radio, mais qui montrent un peu ces réseaux d'interconnexion, comment ils évoluent sur les dernières décennies.
Avec un autre gros changement, c'est l'arrivée, vous parlez de l'internationalisation, c'est l'arrivée des élites étrangères, européennes et autres. Là, ça passe de 3% à plus de 30%. 5%, moins de 35%, on est dans ces eaux-là, donc 10 fois plus en quelques décennies.
Tout à fait. Alors ça aussi, si on le compare à d'autres petits pays européens, la Suisse se distingue par la forte proportion d'étrangers. Alors il faut bien voir que les entreprises suisses, les grandes, étaient très internationalisées déjà bien avant. Mais ce qui faisait leur particularité, c'est qu'elles étaient encore contrôlées par des élites suisses jusqu'aux années 90. Ce qui est frappant, c'est vraiment un changement rapide sur la diminution du nombre de Suisses et la forte progression d'étrangers. Ça, c'est vraiment très, très frappant. Il y a peu de pays où l'évolution a été si forte. Disons, les récentes nominations à la tête du Crédit Suisse avec...
Tidjane Thiam, le fameux franco-ivoirien qui est venu. On avait fait une émission spéciale parce que ça avait frappé les esprits. Une personne d'origine africaine à la tête d'une entreprise suisse, ça n'aurait pas été possible il y a 15 ans.
Il y a 15-20 ans, ça aurait été impensable. Si on avait dit qu'un Africain prendrait la tête du Crédit Suisse, les gens auraient rigolé. C'est vrai que son prédécesseur était déjà américain. Donc c'était déjà révélateur d'un changement pour les grandes entreprises.
On se connaît moins, en fin de compte, dans ces élites. On est un peu plus international. On est au plus international aussi en tant que Suisse parce que on est globalisé. Ces élites sont un peu plus globalisées. Du côté des politiques, on s'est aussi professionnalisé. On est un petit peu moins un peu partout. On fait plus de politique, peut-être. Donc, moins d'interconnexion entre tous ces gens. Qui c'est qui accède au pouvoir aujourd'hui? Qui sont les élites? Que ces gens internationalisés?
Enfin, en tout cas, à la tête des grandes sociétés, c'est clairement des personnalités avec des profils assez différents du profil traditionnel qu'on a évoqué avant. Alors, d'une part, une proportion d'étrangers, mais aussi parmi les Suisses, des gens aussi qui ont même si avant il y avait des expériences internationales, mais ça s'est encore vraiment fortement accentué. Alors ça c'est au niveau un peu de l'origine et puis de la carrière plus internationale, mais aussi au niveau de la formation. Ça change pas mal ce qu'on a pu documenter. C'est qu'alors que le droit suisse, la formation de juriste était très importante parmi les élites économiques, ça a fortement diminué au profit en particulier des formations en gestion, en management. Maintenant c'est vraiment le profil dominant, c'est d'avoir une formation soit dans un tel qu'un Master of Business Administration qui est vraiment dominant.
Vous dites qu'on est dans une période de transition, pourquoi ?
Alors, on avait un modèle d'élite relativement stable dans la majeure partie du XXe siècle, même s'il y avait une certaine attention au début du XXe, mais maintenant, on a vraiment des tendances assez lourdes de changement. Donc cet aspect... Il faut toujours un petit peu nuancer, mais la formation des étrangers, le type de profil de formation, le fait que justement ces réseaux d'interconnexion diminuent. Et donc, on est dans une phase un petit peu de transition, dans le sens où c'est pas complètement stable, on sait pas encore très bien. Les connexions aussi avec la politique évoluent, changent. Auparavant, on avait des connexions assez fortes entre les dirigeants économiques et la sphère politique. C'est beaucoup moins le cas maintenant. En tout cas, ça passe plus par des intermédiaires différents, quoi.
Et si on veut plus de détails, eh ben, il faudra se rendre sur www.socialchangeswitzerland.ch. C'est le site. On va retrouver cet article complet dans quelques jours, hein. On demandera un peu de patience. Il sera sur notre site internet www.rts.ch/tribu. Il sera en lien. Merci beaucoup, André Mac, d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer.
C'était un plaisir.
Qui nous gouverne et qui nous gouvernera sans doute un jour encore. Merci beaucoup, en tout cas, de votre attention. Dans quelques instants, les décodeurs. Merci à Yves Roulin, qui était à la technique. Céline Zuffray, notre assistante de production. Karine Vouillamot, qui a choisi la musique. Demain, nous nous pencherons sur les relations parfois compliquées entre les parents et les enseignants. Excellente journée. À demain.